Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
Louis. Dans le film Everywhere, Everything, All at Once, réalisé par Daniel Kwan et Daniel Scheinert, le personnage principal est une femme qui explore différents univers. Chaque univers parallèle correspond à une vie qu'elle aurait pu avoir si elle avait fait un choix différent. Imaginez toutes ces vies qu'on ne vivra jamais, c'est le pouvoir vertigineux du « et si ?» « Et si j'avais étudié les mathématiques plutôt que les sciences sociales ?» « Et si j'avais dit à cette amie que j'étais en train de tomber amoureuse ?» Et si j'étais sortie danser? Et si j'avais tourné à droite? Et si? Rétrospectivement, on peut laisser son imagination vagabonder dans toutes ces vies non vécues. Mais comment on fait sur le moment, quand on doit prendre une décision? Qu'est-ce qui fait qu'un choix va nous sembler bon, évident? Que finalement, on n'aurait jamais pu faire autrement? Cette semaine dans Passage, un choix qui décide d'une vie, de trois vies même. Clarisse, Jordan et Jules, au micro de Marion Botorel. Je suis Louise Emerlet, bienvenue dans Passage.
L'assistante sociale arrive. Elle nous explique un petit peu le déroulé de la suite. Une fois que les papiers sont envoyés à Paris, l'enfant est abandonné. On a 2 mois pour se rétracter. Je me dis, en fait, est-ce que je regretterai pas ? L'assistante sociale part. Et Jordan aussi, parce qu'il doit rentrer et il doit aller me chercher des affaires aussi. Il part et moi, il faut que je m'occupe, que je fasse quelque chose, en fait.
Je reprends la voiture, je m'effondre dans la voiture tout seul. Je pleure toute la route. Je suis dévasté. Psychologiquement, il ne reste pas grand-chose de moi. Et puis, je rentre chez moi pour quand même que je lui dise à mes parents ce qui vient de se passer, quoi. Quand j'arrive, ma mère se doutait qu'il y avait quelque chose, parce que quand elle nous a vu partir la veille, elle a vu qu'il y avait, elle a vu qu'elle était pas très bien, donc, je lui dis que Clarisse a accouché d'un petit garçon cette nuit, qu'on s'apprête à le laisser sous X, et que du coup, ce sera un enfant qui sera mis à l'abandon, et que, il pourra être adopté plus tard, quoi. Et que nous, on n'est pas prêts à avoir un enfant, et qu'on ne veut pas d'enfant pour le moment, et que c'est pas possible, en fait. On n'est pas prêts à ça, quoi. Et ma mère, enfin, du moins, mes parents sont des enfants qui ont été abandonnés très tôt par leurs parents. Ma mère n'a quasiment pas connu sa mère, a très peu connu son père. Donc du coup, ça l'a particulièrement affecté, ça l'a beaucoup touché. Ça, à la limite, enfin, je dis souvent que ça a failli la tuer, quoi. Quand je lui ai dit ça, ça a vraiment fait l'effet d'une bombe sur elle. Elle s'est assise et elle a pleuré. Et puis, elle m'a dit que c'est quelque chose que je regretterai toute ma vie d'avoir fait ça, de l'abandonner. En fait, c'est que je pourrais pas vivre avec ça, en fait. Ça me blesse forcément d'entendre ça, de savoir ça. Après, comme je lui dis, c'est que ça reste quand même notre décision à nous. Je sais pertinemment qu'ils sont là si j'ai besoin, mais je veux pas le garder parce que je sais que mes parents sont là et qu'ils s'occuperont de lui, en fait. Moi, je suis pas prêt à être père, donc je ne veux pas être père maintenant, quoi. Ça se termine sur des larmes et sur... même si elle m'a dit que je le regretterais, je ne voulais pas le garder, donc c'était ma décision, quoi. Après avoir dit à ma mère, du coup, j'attends que mon père rentre du travail. Donc, quand il rentre, on s'assoit à table. Et donc, je lui dis que Clarisse a accouché d'un petit garçon et qu'on n'allait pas le garder. Et en fait, quand je lui dis ça, je pense qu'il a eu une envie de pleurer automatiquement. Et donc, il s'est juste levé, il est parti sans rien dire, quoi. Il ne pouvait pas, quoi. Pareil, mon père est un enfant qui a été placé, qui a été élevé par des bonnes sœurs. Donc, du coup, ouais... il n'y a aucune bonne façon d'arriver devant eux et de leur dire « Bon, ben, j'ai un enfant, je le garde pas, voilà. » Je veux juste que mes parents me comprennent et respectent mon choix. Et voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement, quoi.
Je me retrouve seule et dans le besoin d'avoir le petit avec moi. Donc, bon, je demande le petit aux infirmières. Elles me l'amènent. Quand on me l'amène, une connexion commence à se créer, en fait. Je commence à avoir... à comprendre petit à petit que c'est potentiellement mon enfant. Que c'est l'enfant que je risque d'abandonner, mais qui vient de moi. Je m'attache un petit peu au petit bébé qui est en face de moi parce que j'ai cet instinct quand même... pas de maman, mais maternel qui se crée un petit peu parce que j'ai... voilà, j'ai grandi avec que des enfants autour de moi, donc voilà, il y a quand même une petite retenue qui commence à lâcher. Je me reprends en main, en fait, quand j'ai le petit dans les bras, parce que je lui explique, en fait, qu'il sera en sécurité là où il sera, qu'il va avoir une belle famille. Je lui explique toute la journée qu'on a passée, tous les papiers, pourquoi on a fait ces papiers. Il sera mieux, il sera aimé, et comme nous, on ne pourra pas forcément le faire. Ça me fait du bien, en fait. Ça me déculpabilise, ça me permet de me dire oui, il sera dans une belle famille. Et moi, je pourrais le laisser partir tranquillement. C'est très, très fort. Je lui explique que c'est peut-être la dernière fois qu'on se verra. Et ça me permet de, moi aussi, réaliser que c'est peut-être la dernière fois que je l'ai dans les bras. Je n'ai toujours pas arrêté de pleurer hein, depuis la veille.
Donc, une fois que j'ai annoncé tout ça, je l'ai dit à mon frère, à ma sœur. Pour personne, ça a été facile d'assimiler tout ça. Donc, du coup, je repars à l'hôpital avec donc, des affaires, des changes, etc. pour Clarisse. Et je reçois donc, un message de Clarisse me disant qu'elle a fait monter le petit et que a voulu lui donner le biberon. Quoi.
Il ne veut pas le voir. Il ne veut pas avoir cette touche de réel sur tout cet irréel-là. Donc, je respecte et je lui dis que j'ai le petit avec moi, donc qu'il attende un petit peu avant que je finisse le biberon du petit.
Et donc, moi, à la base, je suis plus que réticent à l'idée de le voir. Pour moi, c'est impensable d'être avec lui, de le voir, parce que je pense que je pouvais pas encaisser ça, en fait. Je pouvais pas encaisser l'idée de le voir. Et en fait, quand elle m'a dit qu'elle avait monté pour lui donner le biberon, bah, je me suis dit que ça aurait été très lâche de ma part, en fait, de ne pas le voir, en fait. Parce que l'abandonner sans jamais ne serait-ce qu'avoir vu son visage ou quoi, ça aurait été encore pire que tout. Donc du coup, je me suis juste dit, bon, allez, il faut au moins que je le voie une fois pour me dire que je suis pas lâche à ce point-là et qu'au moins, j'aurais fait les choses bien, quoi. J'ai dit à Clarisse, attends, garde-le le temps que j'arrive et comme ça, ouais, je pourrais le voir au moins une fois. Et puis voilà, quoi.
Alors quand Jordan me dit qu'il veut le voir, je me sens un peu rassurée. Parce que j'avais peur qu'il, lui, culpabilise de ne pas avoir vu le visage. Donc du coup, ça me fait du bien, ça me rassure un petit peu.
Je me gare, je descends, et puis sur la route, du coup, entre la voiture et la chambre de Clarisse, du coup, je suis ultra stressé, je sais pas à quoi m'attendre, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il y a réellement un bébé, est-ce que c'est une blague. Donc du coup, je monte... J'arrive donc devant la chambre et j'ouvre la porte et puis je vois Clarisse avec un bébé dans les bras et là je me dis putain c'est vrai. Et en fait là c'est en fait la goutte d'eau est là quoi. Tout ce qui s'est passé avant en fait ça s'est allumé et du coup bah ouais c'est il y a un bébé putain il est là quoi. Il est juste là, il est dans les bras de Clarisse quoi.
L'image que j'ai c'est il ouvre la porte et j'ai l'impression que tout se reconstruit autour de nous. Tout devient clair, tout devient fluide. En fait, je me dis non, mais on n'est pas un. C'est notre enfant, c'est notre famille. Et je me suis dit, en fait, non, c'est pas possible.
Il y a un moment où je le vois, je m'approche un peu intrigué, quoi. En fait, je m'approche et je regarde. Et je me dis, tain, mais c'est rigolo. Putain, il me ressemble. Je suis pas bête. Je sais qu'un enfant, c'est forcément qu'il va nous ressembler. Mais je me vois à moi, dans les bras de ma mère, sur la photo que je vois depuis que je suis né, en fait. C'est exactement la même tête. Et j'ai un électrochoc. Et en fait, c'est là où est-ce que la bascule s'est faite dans ma tête. En fait, c'est vraiment moi et c'est réellement une partie de Clarisse et c'est réellement une partie de nous deux, quoi. Je le porte, je le prends dans mes bras pour la première fois, etc. Et donc, du coup, à ce moment-là, je me dis qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de faire des papiers pour m'en donner un enfant. Et en fait, cet enfant, bah, c'est moi et c'est un bout de la femme que j'aime. Et je suis en train de l'abandonner. Et en fait, dans ma tête, je me dis, c'est fou de faire ça. C'est fou de m'abandonner, d'abandonner la femme que j'aime, en fait. Et je commence à me dire, est-ce que je vais pouvoir vivre avec ça, en fait ? Est-ce que c'est possible de vivre avec l'idée qu'un enfant que j'ai créé erre par là ? Et je connais rien de lui, mais il est là et il est de moi. Et je sais pas ce qu'il est, je sais pas ce qu'il fait, je connais rien de lui et il connaît rien de moi. Et est-ce que je vais pouvoir vivre avec ça, en fait ?
Et je me dis qu'ils sont beaux, en fait, et que c'est le papa et son fils, et que c'est mon chéri et mon fils.
Et moi, de le voir avec elle, ça chamboule forcément, alors qu'à la base, on était formel sur le fait de ne pas le voir. Donc même si on ne s'était pas dit que la roue était en train de tourner, ça avait déjà commencé à tourner, en fait. Mais ce n'était pas officiel entre nous deux, quoi. On ne s'était pas dit qu'on voulait le garder ou quoi que ce soit, quoi. Vu que Clarisse n'avait pas dormi depuis déjà trop longtemps, les sages-femmes viennent le récupérer pour qu'on puisse se reposer et que même lui soit entre de bonnes mains pour dormir. Donc du coup, il l'emmène.
J'avais besoin de me reposer et de réfléchir tous les deux, de se poser tous les deux et de mettre à plat tout ce qui s'est passé en 24 heures. Enfin, est-ce que notre décision est prise définitivement ou pas du tout ?
Le soir, donc, je lui dis qu'il faut qu'on appelle ses parents parce que ils ont besoin de savoir eux aussi ce qui est en train de se passer.
Je ne suis pas prête à tout ça. Je veux pas. J'ai pas envie. J'ai peur. Du coup, j'ai demandé à Jordan de le faire.
Donc, on commence par appeler sa mère. Sa mère répond. On lui annonce la nouvelle et elle réagit C'était très neutre comme réaction, il n'y avait quasiment pas d'émotion, j'ai ressenti très peu d'émotion. Ça s'est un peu résumé à « faites ce que vous voulez ». Je pense que le choc était tellement gros pour elle aussi que le seul réflexe qu'elle a pu avoir, c'est de « faites ce que vous voulez », enfin, je perdu, quoi.
Ça me met sur le cul, c'est le mot. Mais je ne suis pas choquée non plus parce que je sais que ma maman est comme ça. Mais ça me dérange, beaucoup, qu'elle n'est, même là, qu'elle n'ait pas d'émotion. Je dis à Jordan qu'il faut appeler mon père parce que je n'étais toujours pas en état. Je continue à pleurer. Donc, Jordan appelle mon papa. Et là, c'est tout l'inverse. Un surplus d'émotion, un surplus d'énervement, un surplus de tout. Mon papa réagit très, très mal à cette annonce. Pour lui, c'est une trahison, c'est un mensonge, c'est inconcevable de cacher ça, de cacher un enfant, sachant qu'une semaine auparavant, il nous servait des verres de bière, il nous fait pleurer, il fait pleurer Jordan. Et finalement, mon papa se calme, se détend un petit peu. Jordan lui explique calmement que ben on n'y pouvait rien. Et plus tard dans la soirée, mon papa appelle sa maman et ma grand-mère lui explique que dans sa famille, une de ses tantes à mon papa a eu sur 4 grossesses, 3 d'une grossesse. C'est ça qui débloque mon papa et qui lui permet d'accepter qu'il est grand-père. Ça peut arriver à tout le monde et c'est comme ça, tout simplement. À partir de ce moment-là, la culpabilité a pris le dessus. Je me suis sentie coupable de tout depuis le début. Je me sentais coupable de ne pas être consciente d'avoir eu un enfant, en fait. D'avoir caché cet enfant, j'avais l'impression d'avoir caché. Enfin, j'ai l'impression d'être un monstre. J'ai l'impression d'avoir menti. J'ai l'impression d'avoir fait souffrir mon fils. Je me sentais vraiment coupable.
On commence à dormir ensemble, donc on dort, on se réveille un peu dans la nuit, on rediscute, on redort, on rediscute. En fait, on fait un peu que ça toute la nuit. Et en fait,
on s'est dit avec Jordan, ben, c'est pas possible. Imagine un jour, on a un enfant et on pourra jamais dire que c'est notre fils unique, en fait, que c'est notre premier enfant. On en aura toujours deux. Du coup, je me dis non, je ne veux pas.
Le lendemain matin, on se réveille et puis le premier truc qu'on a envie, c'est de voir Jules. C'est le premier réflexe qu'on a, c'est de le voir en fait. Et puis en fait, quand on le revoit, ben, on se dit que c'est pas possible en fait. Impossible de l'abandonner, c'est mort en fait. On peut pas le faire, on peut plus le faire quoi.
On est sûr de la décision, on est sûr qu'on va le garder. Mais surtout, moi ça fait un flashback sur mon histoire familiale, ça... Vraiment, j'aimerais que mon histoire familiale aussi se dénoue aussi facilement que ça se dénoue pour notre histoire à nous. Et j'espère au plus profond de moi que Jules aussi sera aimé et vivra une plus jolie enfance que moi je peux vivre, en fait.
C'est pas qu'on voulait pas d'enfant maintenant, c'est qu'on l'attendait pas, en fait. On s'attendait pas à avoir un enfant maintenant et pas comme ça, en fait.
Donc j'ai appelé l'assistante sociale.
Donc on lui dit qu'on avait changé d'avis, donc elle ramène tous les papiers de Miss Sous-X, et on a pu les déchirer comme signe de que toute cette mauvaise chose était derrière nous, quoi.
C'était un signe de fin de cette histoire, et on a fini ce chapitre Sous-X, et c'est la création de notre famille. Et du coup, on avait le petit avec nous, et elle nous a dit « vous faites une belle famille ».
Je suis devenu officiellement son père. Je suis pas devenu son papa, je suis devenu son père. Je le reconnaissais comme étant mon fils et qu'il était bel et bien né de moi et que c'est moi qui allais l'élever, mais je me sentais pas du tout encore père ou papa ou n'importe quoi. Juste, on savait qu'on allait l'élever. Il m'a fallu plus que de simples papiers pour me dire que j'étais père, quoi.
Après 6 jours d'hôpital, on se prépare à vivre à 3. Après avoir fait des derniers petits examens pour Jules, donc pour le cœur et le cerveau. RAS, tout va bien. On est prêt à sortir. On prend nos valises. On sort. Quand j'arrive, je découvre que Jordan a tout organisé. Donc, toute la chambre est modifiée, le lit du bébé et collé aux notes. Et tout était parfait, en fait. Il avait réussi à tout faire sans moi. C'était parfait, j'avais juste à me reposer et à reprendre un petit peu du poil de la bête aussi. Sur les deux premiers mois, je commence à rentrer dans un cercle vicieux de tout devient mécanique. Le bain, le changement de la couche, tirer le lait, se coucher, manger. Tout est très, très mécanique, très carré, très... J'ai pas vraiment d'émotion à ce moment-là. L'arrivée à la maison n'est pas le gros déclenchement de la maternité. C'est vraiment... Voilà, je dois nourrir un bébé, je dois le laver, je dois me laver, je dois manger, je dois tirer le lait.
Vivre avec un enfant, c'est pas compliqué. Vraiment, faut pas être né de la dernière pluie pour savoir s'occuper d'un enfant. Vraiment, c'est à la portée de tout le monde, un peu débrouillard. Donc non, je sais m'occuper de lui et je lui donne le biberon, je lui change la couche, je lui donne le bain. Juste, c'est plus dans le sens... on va dire en moi, en fait, qui est, où c'est plus compliqué. J'ai eu beaucoup de mal avec tout ça. J'ai pris beaucoup de temps avant de pas accepter d'être père, parce que j'ai bien compris que j'avais un enfant, et puis voilà. Mais plus dans le sens, on va dire, affectif. J'ai eu beaucoup de mal à lui dire que je l'aimais ou des choses comme ça. Des choses qui peuvent paraître toutes bêtes pour n'importe qui attendait son enfant depuis X temps. Et je me vois pas dire à un enfant que je l'aime au bout d'un mois, en fait. C'est des mots qui n'arrivaient pas à sortir, en fait. Et puis même moi, j'ai mis beaucoup de temps à m'accepter en tant que père.
Quand je me retrouve seule, c'est encore plus mécanique, c'est encore plus dur. Ça m'arrive d'avoir des petits moments de craquage. Quand j'ai besoin, j'appelle de l'aide. Parce que j'ai parfois peur d'avoir des excès d'humeur, d'avoir de la violence pas contrôlée. Dès que je le sens, j'appelle quelqu'un. Je dis stop, je le laisse dans son landau et je vais partir souffler un coup et me remettre un peu en mode humain parce que j'étais robotisée aussi encore à ce moment-là. Ça m'a fait aussi tomber dans une dépression postpartum. Donc, je suis en dépression postpartum pendant quelques mois quand même. Physiquement, j'en pouvais plus. Je perdais beaucoup de poids. Mes seins explosaient. J'avais des crevasses partout. Je souffrais le martyre de partout. Je suis constamment auprès de Jules. Je veux tout bien faire. Je veux que tout soit carré, qu'il ne ressente pas une douleur ou qu'il ne ressente pas un moment d'absence ou un moment où je suis triste. À chaque fois que je sens que je suis triste, fatiguée, je le lègue à quelqu'un qui ne ressent pas de douleur, pas de souffrance de sa mère. Je veux juste qu'il soit bien. Durant le postpartum, je sais que c'est acté. Il n'y a pas de retour en arrière. Je ne veux pas faire de retour en arrière. C'est juste qu'il nous faut du temps pour apprendre à être parents, pour apprendre à s'aimer tous ensemble et à se comprendre. Accepter aussi que je ne suis pas fautive de quoi que ce soit, que Jules n'est pas malade, que tout va bien, malgré ce que j'ai pu avaler, ce que j'ai pu fumer, ce que j'ai pu boire. Mais il est en bonne santé et c'est accepter en fait le bonheur qu'on a, tout simplement.
De ces zéros à ces, peut-être, je sais pas, neuf mois, un an par là, un bébé, c'est pas du tout interactif, hein, dans le sens où j'arrivais pas du tout à m'amuser avec lui, j'arrivais pas à aller vers lui, et puis j'en ressentais ni le besoin, ni l'envie, et je le fais parce que Clarisse me le demande et que le petit en a besoin. Mais moi, de mon plein gré, je vais jamais vers lui de moi-même, et je n'y arrive pas.
L'endormir, c'est un geste d'affection. Mais pour moi, il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus pour le moment, c'est déjà beaucoup. Mes gestes d'affection se sont arrêtés pendant très longtemps. Ça s'est arrêté à câlin, quand il y avait le bibi, bisous, et puis c'est tout.
Au début, oui, ça m'inquiète. Par chance, on a été beaucoup encadrés. On avait une puéricultrice qui venait régulièrement à la maison, donc avec qui je parle beaucoup. Et donc, je lui dis, est-ce que c'est grave si j'arrive pas à aller vers lui? Est-ce que c'est moi qui ai un problème ou quoi? en fait, elle m'explique que j'ai pas de problème et que c'est normal si j'y arrive pas, c'est parce que ben moi je suis pas prêt à ça, que je serai utile peut-être plus tard, mais que j'ai pas à m'en vouloir de quoi que ce soit en fait. Et donc du coup, elle me rassure comme un peu.
L'avantage, c'est qu'on a une assistante sociale qui a su nous rassurer dès le début que ce qui s'est passé n'a rien d'abominable et n'a rien de de normal non plus, parce que ça peut arriver à tout le monde, mais ça n'arrive pas à tout le monde. Ce n'est pas moi qui suis complètement folle et qui cache mon enfant. Non, c'est juste la vie qui est comme ça, le corps humain qui nous protège et qui est bizarre, mais qui est comme ça. Heureusement que j'ai pu voir des psychologues qui m'ont beaucoup, beaucoup aidée.
Et puis, quand Jules grandit, au fur et à mesure qu'il grandit, je me rends compte que j'ai beaucoup plus de facilité à aller vers lui. Et d'autant plus quand il commence à être de plus en plus interactif, donc il commence à marcher, enfin, qu'il commence ne serait-ce qu'à faire du quatre pattes, qu'il commence à attraper les choses, à les jeter. Enfin, je me rends compte que même moi, je vais de plus en plus vers lui. Et que lui, du coup, vient de plus en plus vers moi. Et en fait, du coup, le lien commence à se faire comme ça. Là, oui, là, j'ai commencé à réellement me rapprocher de lui, ouais.
Au fur et à mesure, je commence à avoir des gestes, des mots, de la tendresse pour Jules, à lui dire que je l'aime, à lui dire que c'est mon bébé, que c'est mon enfant. Et je le vois de plus en plus éveillé. Donc, lui aussi, on le ressent, qu'il ressent qu'on l'aime et que c'est notre fils, tout simplement. Vraiment, au bout des 8-9 mois, voire 10 mois de Jules, Jules a commencé à aller à la crèche. Et là, je me rends compte que je rentre dans le monde des parents, déjà grâce au regard des parents. Là, je me rends compte que c'est mon enfant et que je m'en occupe comme mon enfant, comme les autres parents. Ça devient naturel, mais plus mécanique.
Ça a pris du temps, mais c'était pas compliqué parce que... Ça se fait naturellement, ça s'apprend pas. Personne n'a appris à être parent et tout le monde l'a appris sur le temps, en fait. Donc non, ça a pas été compliqué, ça a juste pris plus ou moins de temps en fonction de elle ou de moi. Mais non, on a fait ça à deux. Et puis quand moi, j'étais pas à l'aise dans quelque chose, elle était là. Et vice-versa, quand il y avait des choses qu'elle n'arrivait pas à faire, j'étais là. On a toujours été complémentaires dans tout. Et puis jusque-là, on est assez complémentaires, ouais.
Donc on est capable de s'aimer encore plus.
Je pense où je l'ai réellement accepté et où je me suis réellement dit que c'était sûr que c'était mon enfant. C'est quand des fois il partait à la crèche ou quoi, j'avais envie de le voir le soir en fait. Comme avec sa mère, quand je ressens le manque d'elle parce que j'ai envie de la voir, du coup on ressent ce même sentiment-là de manque et que le temps passe vite quand on est ensemble et tout ça. Du coup tu te dis que c'est les mêmes sentiments, donc que tu l'aimes à lui aussi quoi.
Moi, pour me sentir totalement maman, ça m'a pris le temps d'une grossesse. Donc, du moment où il est né, aux 9 mois de Jules, j'ai vécu ma grossesse à ce moment-là. J'ai appris à aimer à ce moment-là. Et à la fin, on a un vrai bébé qui a les yeux grands ouverts et qui bouge dans tous les sens et qui est prêt à prendre un petit peu son envol. Et nous, à se rendre compte qu'on est vraiment parents. Et c'est à ces 9 mois-là de la vie de Jules qu'on s'est rendu compte qu'on était parents. Ce que j'en ai compris par rapport à tout ce qu'on a pu entendre par les médecins, c'est que c'est tabou, c'est nourri toujours le déni par quelque chose. Nous, dans notre histoire, le déni a été nourri par les beaux-parents, la belle famille, qui voulaient absolument tous les jours être grands-parents. Tous les jours, ils nous répètent qu'ils veulent être grands-parents. Nous, on leur dit tous les jours que ce n'est pas le moment, qu'on ne veut pas. Les beaux-parents font partie d'une grosse partie du déni, mais je pense qu'il y a aussi mon enfance, encore une fois. Le fait d'avoir peur d'avoir un enfant et de reproduire ce que ma mère a pu faire. La souffrance que je vis encore au quotidien, de ne pas savoir, peut-être que ça a pu en faire partie aussi. C'est pas un enfant non voulu, c'est un enfant qui n'était pas attendu.
Aujourd'hui, Jules a 2 ans et demi. C'est un petit garçon plein d'énergie, plein de fougue et plein de vigueur. Il mange très bien comme moi. Et nous, on va très bien. Moi et Clarisse, il n'y a rien qui a changé. C'est toujours comme au premier jour. Hein. Et puis, ça fait 4 ans qu'on est ensemble et il n'y a rien qui a changé. Le seul petit bémol, c'est qu'on arrive enfin à partir de chez mes parents. Ce serait cool, quoi. Et après, voilà. Et ensuite, on pourra juste continuer à vivre comme ça. Dans tous les cas, on a déjà notre petit train-train qui est en place, nous trois. Donc, il faut juste qu'on arrive à mettre tout ça en place dans notre maison. Et voilà.
Pour moi, ça sera toujours un combat pour essayer de raconter un petit peu le déni de grossesse. Mais tous les trois, on a beaucoup grandi, on a beaucoup évolué. Et maintenant, oui, je suis maman et je suis fière d'être maman. Et j'aimerais pas qu'on nous juge parce que ça peut arriver à tout le monde. Et je suis fière de notre histoire. Je veux qu'ils sachent tout ça parce que oui, c'est un rapport avec mon histoire personnelle à moi et je veux qu'ils soient autant fiers que moi j'aurais voulu l'être, tout simplement.
Tu dis t'aimes papa.
T'aimes maman.
Et t'aimes maman.
T'aimes maman.
Et tu t'appelles comment toi?
Moi.
Moi.
Moi. Tu t'appelles moi.
Je t'appelle moi.
Cet épisode de Passage a été tourné et monté par Marion Botorel. Thomas Rosès était à la réalisation et au mix. Je me suis chargée de la production. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. À très vite.
Bonjour, c'est Zoé de Louis. Avant de commencer votre épisode, j'aimerais vous parler du film Rosalie, qui est actuellement au cinéma. Un film réalisé par Stéphanie Di Giusto, qui présente le destin de Rosalie, une jeune femme qui se découvre et s'émancipe dans la France très puritaine de 1870. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que Rosalie est une femme à barbe, un trait physique quelque peu particulier, surtout pour les mœurs de l'époque. On vit avec Rosalie sa quête d'amour et de liberté face à une société qui ne l'accepte pas à cause de sa différence. Le film réunit pour la première fois Nadia Tereskevitch et Benoît Maginel, tous les deux très touchants dans cette histoire d'amour complexe, mais très belle. Alors n'attendez plus pour aller voir Rosalie au cinéma dès maintenant et découvrir ce film qui célèbre l'acceptation de soi et des autres. Vous pouvez aussi découvrir l'interview de Nadia Tereskevitch, le personnage principal du film, dans notre dernier épisode de Pépite. À très vite.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.